8 milliards de voisins, c'est maintenant.
Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Et en fait, à chaque fois que j'y réfléchis, je reviens au fait que je suis ni l'un ni l'autre.
Je me sens pas fille, c'est bizarre. J'arrive pas à dire que je suis une fille.
Bisexualité, je l'ai dit à ma mère. Voilà, elle m'a dit « Oui, ok, mais je pense que les parents, quand on a 12-13 ans et qu'on vient leur dire « Oui, voilà, c'est ça ma sexualité », ils nous prennent pas au sérieux. »
Il y avait quelque chose en fait qui bloquait, parce que je me disais « Mais en fait, c'est pas possible, ça existe pas, il y a personne comme moi. » Et c'est à partir du moment où j'ai pu avoir des représentations que je me suis dit que ça pouvait exister.
Maintenant, j'ai mon petit drapeau trans dans ma bio de compte Instagram.
Tu me connais pas en fait. Tu peux pas juger à mon physique si je suis une fille ou un garçon ou une personne non binaire ou peu importe. Tu peux pas juger ça.
Mais comment est-ce que font les gens pour se ressentir homme ou femme?
Il y a que moi qui peux le dire. Donc si je te dis que je suis un mec, c'est que je suis un mec.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins. Vous venez d'entendre des questions ouvertement discutées chez les adolescents en France. Non-binaires, trans, bisexuels, pansexuels, ces mots sont désormais connus des lycéens. Alors à quel genre appartiennent-ils? Quelle sera leur orientation sexuelle? Ils sont aujourd'hui plus nombreux, plus jeunes qu'avant, à changer d'identité de genre et à demander à ce qu'on les appelle par un autre prénom que celui qui leur a été donné à la naissance. Face à ces demandes et ces différents coming out, parents et enseignants sont parfois désarmés. Certains y voient un effet de mode ou la preuve d'un mal-être. Alors comment les adolescents en pleine quête identitaire parlent-ils de ces sujets entre eux? Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans leur construction, leurs échanges? Je vous propose un reportage de Charlie Dupiau dans le labyrinthe du genre avec ses jeux de miroirs, ses certitudes et ses doutes.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Bonjour Charlie Dupiau.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez tendu votre micro à des parents, des enseignants, des sociologues et bien sûr à des jeunes concernés par ce sujet.
Oui, des jeunes qui veulent mettre des mots nouveaux sur leur identité de genre et leur orientation sexuelle. Vous allez l'entendre, c'est aussi un langage. Déjà, on parle de jeunes LGBT+, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels, transgenre et plus pour toutes les autres identités qui existent. En tout cas, c'est l'idée que le genre est différent du sexe biologique. C'est-à-dire qu'on peut naître en tant que fille et se ressentir garçon, ou à l'inverse, naître garçon et se ressentir comme une fille, ou bien même se ressentir ni fille ni garçon. Alors cela peut vous étonner, mais je vous propose de les écouter. Inès, Adèle et Lucas ont 17 ans et sont dans le même lycée, un lycée privé en région parisienne.
Personnellement, mon genre, il est défini. Enfin, je suis une femme et je pense que je le serai toute ma vie. Mais par rapport à l'orientation sexuelle, comme beaucoup de jeunes maintenant, je me suis posé la question de savoir si j'étais hétéro, si j'étais bi, si j'étais lesbienne ou quoi. J'ai une attirance pour les garçons, mais ça peut aussi m'arriver de sentir une attirance pour les filles. Et j'ai pas trouvé de réponse encore. Je me situe pas. Et en fait, je crois que j'ai pas envie de me mettre dans une case. Je mets pas de mots sur mon identité.
Pour mon genre, pareil, je suis femme définie et je le sais. Je suis pansexuelle, c'est-à-dire que j'aime les gens pour ce qu'ils sont et le genre m'intéresse pas vraiment. Certaines personnes diront que c'est bisexuel, mais comme pour moi, il y a plus que deux genres.
Bisexualité, ça veut dire qu'on est soit attiré par des hommes, soit par des femmes. Mais c'est binaire, c'est-à-dire que ça n'inclut pas d'autres personnes qui se définissent en dehors de ces catégories.
Oui, c'est exactement ça.
Et alors, c'est un mot qui est peu connu. Comment tu es venue à te dire pansexuelle?
Il y a une période où, forcément, comme tout jeune, je pense qu'on se cherche. Et que, niveau orientation sexuelle, c'est vrai que j'étais attirée et par des filles, et par des garçons. Et après, quand j'ai découvert les autres genres, j'étais attirée par ces personnes aussi non-binaires. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est en fin de compte d'aimer toutes ces personnes? Et j'ai fait des recherches, pas mal de recherches, et un jour j'ai découvert le mot pansexuel et j'ai regardé la définition. Au départ, je la comprenais pas. Et après l'avoir relu plusieurs fois, je me suis dit, ah, mais c'est moi. Et j'étais super contente. Je sais pas pourquoi, mais avoir mis un mot, je pense que ça aide à construire qui on est. Enfin, ça m'aide à me construire personnellement, et quand j'ai trouvé, j'étais contente.
Alors, tu avais quel âge quand tu as découvert ce mot et que tu te l'es apposé à toi-même ?
J'avais 15 ans. C'est jeune, mais c'est nécessaire. Je pense que la question, elle se pose tellement de plus en plus tôt que pour moi, ça ne m'a pas choquée. À partir du moment où on a accès à Internet pour chercher qui on est, etc., je ne trouve pas ça si jeune que ça, dans le fond.
Est-ce que tu as dit que tu étais pansexuelle à tes parents ?
Je leur ai dit. Mon père a cherché à comprendre, ma mère, je crois que ça lui est passé un petit peu au-dessus. Ma mère a beau dire oui, je suis ouverte, etc. C'est pas possible, elle accepte pas.
Je suis un mec trans, bisexuel. Je nage un peu dans la fluidité. Le sexe ne définit pas le genre.
C'est-à-dire qu'on peut naître fille, mais qu'on n'est pas forcément dans le genre fille.
On peut naître avec l'organe génital féminin et être un garçon et vouloir en changer, avoir un genre fluide, être non-binaire. Tout ça, c'est des choses qui viennent aussi et que notre génération emporte comme bagage avec elle pour les générations futures. Et en se confrontant aux générations précédentes, j'ai fait mon coming out trans à 14 ans, 15 ans. Oh non, c'était un magnifique désastre. J'ai des parents aussi qui ont une vision des choses un peu particulière, mais il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de validation, il y a... une volonté de fermer les yeux sur ces sujets-là, de ne pas les reconnaître, de ne pas en parler. Et... après, j'ai la chance de ne pas avoir été mis à la porte non plus. Hein.
Mais ils continuent à s'adresser à toi comme à une fille.
Ah oui, complètement. On nie la réalité en famille. Qui je suis n'existe pas quand je suis avec eux. Et j'ai carrément l'impression de vivre une double vie entre l'extérieur, le lycée...
Quand tu dis double vie, ça veut dire qu'au lycée, tu es un garçon ?
Oui, oui. Quand je suis au lycée, j'ai pas la même voix non plus. Je suis pas allée voir d'orthophoniste, mais... mais après 4 ans de travail, je modifie ma voix pour l'aggraver.
Comme tu le fais maintenant ?
Comme je le fais maintenant, ne serait-ce que parce que moi, je suis plus à l'aise avec ça. Et pour ce que ça renvoie aux autres aussi.
Dans votre entourage, est-ce que vous avez des amis trans, non-binaires, bisexuels, pansexuels ?
Alors, la plupart de nos amis le sont, en fait. Même, je dirais, tous le sont.
En tant que personne transgenre, je crois que moi qui suis le seul mec trans, il y a une fille trans et il y a une personne non binaire en terminale au lycée. Sur 200 élèves à peu près, ça fait un quota de 1,5%. Ça va.
Si on prend la communauté LGBT dans sa globalité, de ce qu'on en sait, comme a dit Adèle, c'est pas forcément tout le monde qui va se revendiquer à vote. On est quand même plus.
Allez, 6 à 9%.
Plus.
C'est vrai que les gens n'ont plus la nécessité nécessairement de le dire à voix haute. C'est plus quelque chose qu'on a besoin forcément d'afficher. C'est juste quelque chose d'acté, en fait. Quelque chose de normal pour nous. En tout cas, dans le milieu aussi où j'ai grandi. Parce qu'il ne faut pas se mentir aussi, on grandit dans un milieu qui est privilégié, avec des personnes qui ont accès à une éducation. C'est peut-être aussi pour ça hein, que pour nous, ça paraît même normal, mais ça peut être moins le cas dans des endroits où on est peut-être moins éduqué, où il y a plus de tabous à propos de ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, peut-être pour nos parents, c'était quelque chose de très tabou. J'associe pas nécessairement la tolérance, etc., à une génération. C'est juste que je considère que notre génération a été plus éveillée à ça, plus sensibilisée à cette problématique, plus jeune.
Est-ce que ce que je pense, ce que je ressens et qui je suis, est-ce que c'est une mode ? Je me suis sincèrement posé la question parce que mes parents m'ont très rapidement exposé. Oui, c'est une phase de l'adolescence, c'est une mode, c'est le lobby LGBT qui influence les jeunes. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai même pas toutes les réponses de pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis comme ça ? Est-ce que c'est vraiment une mode ? Alors, je pense que non. Non, c'est pas drôle de vivre ça, et en aucun cas c'est une mode. Je pense qu'il y a un mouvement générationnel et un mouvement de libération du genre et de l'individu. On a des termes aussi qui font qu'on peut s'identifier différemment. Et on est l'individu aussi avant d'être l'identité qu'on revendique en fait.
Des paroles d'adolescents qui se construisent en dépit de leur sexe de naissance, transgenre, pansexuel, non-binaire, autant d'identités qui sont discutées aussi sur les réseaux sociaux, Charlie Dupiot.
Oui, c'est là que ces jeunes expérimentent, testent leur identité. Par exemple, Lucas, qu'on a entendu à l'instant, s'est d'abord créé, avant même de se définir garçon, un profil masculin sur un réseau social avec son nouveau prénom, Lucas. Il l'a choisi d'ailleurs à la va-vite, ce prénom, puisqu'il le dit, un prénom, de toute façon, on n'est pas censé le choisir. Il voulait voir ce que ça lui faisait, qu'on s'adresse à lui comme à un garçon. Alors, sur les réseaux sociaux, au sein de certains groupes, on peut aussi trouver par exemple des binders gratuits.
Qu'est-ce que c'est des binders ?
Eh bien, c'est une brassière qui écrase la poitrine. masculine et qui peut être portée par notamment des jeunes garçons trans, donc des personnes nées filles qui se sentent plutôt garçons. Alors Lu, justement, porte un binder. Lu, c'est son prénom d'adoption, car Lu, je répète son prénom pour ne pas dire il ou elle, Lu, donc, se définit comme non-binaire. On va voir ce que ça veut dire. Lu nous raconte son déclic.
J'ai compris que j'étais non-binaire en arrivant dans une asso où il y avait des jeunes LGBT. LGBT, c'est lesbienne, gay, bi, trans. Et faut pas oublier que souvent, derrière le LGBT, il y a un plus qui inclut toutes les identités de genre ou toutes les orientations sexuelles qui sont au-delà de LGBT. J'ai commencé un peu à me présenter, voilà, sous mon prénom de naissance, en disant que j'étais une fille à tout le monde. Et en fait, je me rappelle d'une personne qui m'a fait bon, « bah, moi, je préfère qu'on m'appelle d'un prénom qui était plutôt neutre. » Du coup, je préfère qu'on n'utilise pour moi ni des pronoms masculins, ni des pronoms féminins. Et là, ça a été une espèce de révélation. Je me suis dit, mais c'est possible ? Il y a vraiment des personnes qui sont comme ça et qui sont comme moi, je me ressens.
Et vous avez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 18 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi, à m'affirmer en tant que personne non-binaire. Et je suis passée par une période où je voulais uniquement qu'on me genre au masculin, parce que c'était comme ça que je me ressentais le mieux. Puis maintenant, je suis passée à une période où je m'en fiche un petit peu plus. Le féminin me dérange pas, je préfère quand même le masculin. Et je préfère encore plus le neutre, quand on essaie de trouver des manières de me parler pour ne pas utiliser ni le féminin ni le masculin. Mais ça, je sais que ça demande aux autres des grosses capacités de lexique, d'inventivité par rapport à la grammaire. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu plus complexe pour les autres. Je ne me ressens pas comme étant une femme, je ne me ressens pas comme étant un homme. C'est vraiment un ressenti. Quoi que j'ai entre les jambes ou quoi qui est marqué sur ma carte d'identité. C'est complètement saugrenu de penser que je suis une fille. Dans mon moi, je ne suis pas en fait. Est-ce que je suis plutôt un homme ou est-ce que je suis plutôt une femme ? La réponse, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas très commun, quoi.
Comment dans votre look, dans votre tenue vestimentaire, dans votre manière de vous présenter au monde, vous montrez que vous êtes non-binaire ?
J'ai pas forcément l'impression de montrer que je suis non-binaire. Quand on me croise dans la rue, on me dit « madame ».
Et là, par exemple, votre tenue, ce sont des baskets Converse, un pantalon beige, taille haute, et un sweat noir.
Et un sweat noir. Mais je porte des vêtements achetés un peu, peu importe, au rayon homme ou au rayon femme. Plutôt des vêtements assez amples. Pour ma coupe de cheveux, en général, j'ai réussi à avoir un coiffeur qui me fait le tarif homme, parce que je demande toujours des coupes courtes et des coupes d'homme.
Vous avez quand même votre visage, qui reste le visage d'une femme.
Je sais que j'ai un visage assez féminin, assez rond, tout rond avec des grosses joues.
Vous avez aussi une poitrine et des formes.
Ouais, dans la rue, je ne serais jamais considérée neutre. Parce que c'est ça, en fait, qui est hyper contradictoire. C'est que d'un autre côté, dans la rue, je ne veux pas passer pour un homme, mais je ne veux pas non plus passer pour une femme. Je veux en fait passer pour ni l'un ni l'autre. Mes parents m'ont déjà dit que ça aurait été plus simple si j'avais été un garçon trans qu'une personne non-binaire. Parce que au moins, si j'avais été un garçon trans, ils auraient pu juste tout inverser. Mais là, ce que je leur demande de faire, c'est encore plus compliqué. C'est pas d'inverser le genre assigné à la naissance, c'est de me situer dans un genre qui pour eux n'existe pas. Dans un endroit vide, en fait. Et du coup, pour eux, ça fait... Là, j'ai 26 ans, j'ai dû leur dire quand j'avais 21 ans, 20 ans, et ils comprennent toujours pas. Toutes les fois où on s'adresse à moi, quand on me dit « ma fille », enfin, et que moi je dis, je rétorque « bah non, tu peux m'appeler mon enfant ». Mon enfant, c'est neutre, en fait. Très honnêtement, pendant une période, j'avais énormément de mal avec ça. C'était hyper difficile pour moi, je me disais que j'étais pas assez important à leurs yeux pour qu'ils fassent ces efforts. Parce que pour moi, c'est une forme un peu de non-respect, en fait. Maintenant, je comprends aussi que c'est pas la même génération, même s'il y a des personnes de leur génération qui peuvent le faire, et que ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête, et c'est pas pour autant, en fait, qu'ils m'aiment pas. Je suis surveillante dans un collège depuis 3 ans, maintenant. Bah, du coup, les élèves me voient comme une femme, au premier abord. Il y en a qui sont perspicaces, parce qu'ils entendent que je me genre parfois au masculin. Donc je vais dire, moi, je suis nouveau ici. Ils vont me faire, ah, nouveau ? Mais non, t'es nouvelle. Et là, je leur fais, bah, si je veux être nouveau, je suis nouveau, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que leur cerveau, il bug un peu. Ils me regardent et puis ils font, hein ? Et puis même, il y a des élèves, du coup, ensuite, qui se sentent plus à l'aise pour venir me parler. Mais je crois que je me pose des questions sur moi-même. Tu connais quoi comme identité de genre ? Et d'ailleurs, comme c'est le cas pour des personnes qui vont être trans ou quoi en milieu scolaire, où en fait, ils vont se diriger vers nous parce qu'ils savent qu'ils peuvent poser les questions, qu'on va pas les juger, qu'on va pas dire « Ah bah, t'es un peu trop jeune pour penser à ça ». Et puis même, moi, je vois vraiment qu'il y a une évolution. Par exemple, des fois, je dis non-binaire à des sixièmes, donc des élèves qui ont 10 ou 11 ans, ils savent ce que ça veut dire. Les jeunes questionnent encore plus facilement aussi parce que, bah, ils sont dans ce monde depuis moins longtemps. Ils ont moins fait l'expérience de ces normes depuis autant de temps qu'une personne de 40 ou 50 ans. La dernière fois, j'en ai un qui m'a dit « Tu peux me redire ce que ça veut dire, cisgenre, s'il te plaît ?» Il avait quel âge ? Il était en 5e, je crois. Moi, c'est ça que je vois quand même, que je pense pas qu'il y a 10 ans, une personne m'aurait demandé de lui redéfinir cisgenre. Parce que même moi, il y a 10 ans, je savais pas ce que ça voulait dire, cisgenre.
Une personne cisgenre, c'est une personne qui s'identifie en conformité avec le sexe assigné à sa naissance. Donc effectivement, si moi, à la naissance, on a dit de moi, en regardant mes organes génitaux externes, félicitations, c'est une fille. Et si maintenant, je m'identifie comme fille et comme femme, je suis une femme cisgenre. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Richard. Je suis sociologue du genre à l'Université Paris-Est-Créteil et à l'Université du Québec à Montréal. Ce genre de demande-là ou de visibilité des personnes trans et non-binaires, elle n'a pas de précédent. C'est-à-dire qu'on n'a pas en mesure de se dire qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on assistait à une visibilité qui était similaire. Parce que, effectivement, ce qui est en jeu n'est pas du tout, ne relève pas du tout de la mode. Ce qui est en jeu, c'est justement des jeunes qui ont davantage et plus tôt qu'auparavant des mots pour se nommer, des mots pour mettre sur des sentiments et des ressentis qu'ils ont sur le plan de leur genre et des mots qui n'étaient pas disponibles auparavant. Par exemple, le terme de non-binarité, il y a 5 ans, il était loin d'être aussi connu qu'il l'est aujourd'hui. Donc, c'était évidemment impossible pour un jeune lycéen, une jeune lycéenne, d'utiliser le terme pour référer à son identité. Pour la plupart des gens qui n'ont pas eu l'occasion de se pencher sur le sujet, il y a une difficulté de faire la distinction entre le sexe biologique d'une personne et son identité de genre. Donc, la plupart des gens vont considérer que être une femme, c'est avoir une vulve et s'identifier comme femme et que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être distingué de part et d'autre.
On a peu de chiffres sur cette question des jeunes trans ou non-binaires en France. En revanche, on en a pour le Canada, pays que vous étudiez également.
Alors, oui, on dispose depuis 2022, donc depuis quelques mois, de données issues du recensement de la population canadienne. On a demandé pour la première fois l'identité de genre des répondantes et des répondants. Qu'est-ce que cette enquête-là nous dit? Ça nous dit que sur une population canadienne générale, donc les Canadiens et les Canadiennes de 15 ans et plus, une personne sur 300 s'identifie comme trans ou non-binaire. Donc, on est loin de l'épidémie dont on peut entendre parler parfois dans les médias ou dans les propos de certaines personnes. Ceci dit, il y a effectivement une dimension générationnelle à considérer dans la mesure où si on s'intéresse aux Canadiens ou aux Canadiennes plus jeunes, donc entre 15 et 24 ans, bien là, on n'est plus sur une proportion de une personne sur 300 qui s'identifie comme trans ou non-binaire, mais bien sur une proportion approximative d'une personne sur 125-126. Donc, on voit que dans les proportions absolues, il y a davantage de jeunes Canadiens et Canadiennes qui utilisent les termes trans ou non-binaire pour référer à eux sur le plan de l'identité de genre. Il y a vraiment un aspect générationnel qui est en jeu et qui réfère justement au fait que les mots sont plus facilement disponibles, au fait qu'il y a davantage de représentations et de représentations qui sont positives des personnes trans et non-binaires qu'auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, soit on avait très peu de représentations ou les représentations dont on disposait, c'était des représentations de personnes trans en grande détresse, qui n'étaient pas en capacité d'avoir une carrière, qui étaient rejetées par la famille, etc. Donc, on n'était pas dans des cas de figure ou des représentations auxquelles on souhaitait aspirer. Maintenant, c'est très facile pour des jeunes et des moins jeunes d'ouvrir la télé, de regarder Netflix ou je ne sais trop, et d'être face à des représentations de personnes trans, de personnes non-binaires, de personnes pansexuelles et autres qui vivent bien leur vie.
Quel rôle jouent les réseaux sociaux pour les jeunes qui, justement, sortent de ces normes de genre et se disent trans ou non-binaires ?
Les réseaux sociaux ont un rôle capital pour nos jeunes qui sont LGBTQ ou qui questionnent leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Quand on s'intéresse à ce que les familles ou les parents vont transmettre à leurs enfants en termes de connaissances sur le genre et les sexualités, on se rend compte qu'on n'est pas dans le déploiement des différents possibles, mais on est plutôt face à des parents qui vont présumer de ce qu'ils souhaitent que leur enfant soit. Donc, en d'autres termes, moi, si je suis un parent et je fais de l'éducation à la sexualité à ma fille, je présume effectivement que ma fille est effectivement une fille et sera nécessairement hétérosexuelle. Et donc, tout ça pour dire que les réseaux sociaux vont souvent pallier à ce manque d'informations qui est disponible à l'école ou dans le milieu familial et vont permettre à des jeunes LGBTQ d'avoir des informations qui les concernent, des informations qui ne sont pas perçues comme étant taboues ou enfin censurées par les adultes, et aussi leur permettre de rencontrer des gens comme eux.
On est aussi à un âge où on se pose beaucoup de questions sur son identité, où on veut se définir. Qu'est-ce qui se joue dans cette période-là qui est très importante en termes de questionnement identitaire?
Alors, ce qui se joue à l'adolescence, c'est véritablement, c'est une période qui va être foisonnante sur le plan des questionnements. Donc, on cherche à savoir qui on est par rapport à soi, mais aussi qui on est par rapport à autrui, en quoi on se distingue d'autrui, puis en quoi on est similaire à autrui. Bien, ces questions-là sont moins vues comme étant sensibles, comme étant tabous, comme étant, quelque chose de potentiellement dangereux à manipuler. Ce sont des notions que les jeunes manipulent volontiers et pour lesquelles les jeunes démontrent énormément d'intérêt, peu importe la manière dont ils s'identifient à un moment donné.
Milliards de voisins, de voisines et tous les autres. Nous parlons aujourd'hui de ces jeunes qui s'interrogent sur leur identité sexuelle. Gabriel Richard, sociologue du genre, évoque un intérêt générationnel pour ces questions-là et non un phénomène de mode. Alors justement, Charlie Dupuis, vous qui signez ce reportage, est-ce qu'il y a des enquêtes menées auprès des jeunes qui ne se sentent pas concernés par ces nouvelles identités de genre?
Oui, il y a eu une enquête en 2017 au Royaume-Uni menée par la Commission pour l'enfance sur un échantillon de jeunes de 15 à 18 ans de toute identité de genre et de toute orientation sexuelle confondues. On leur a demandé « Êtes-vous d'accord pour dire que les gens devraient être libres de choisir leur genre ?» Ils sont 85% à répondre oui, et à la question « Est-ce qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes ?» 69% répondent non. Ça veut dire que plus de deux tiers de ces jeunes considèrent qu'il existe autre chose que le fait d'être seulement une fille ou un garçon. Bref, ils ont des conceptions qu'on peut dire moins binaires que leurs aînés.
Alors, comment ça se passe à l'école pour ces jeunes qui se définissent comme transgenre, c'est-à-dire un sexe différent de celui de la naissance, ou encore non-binaire, c'est-à-dire ni fille ni garçon?
En France, il y a une circulaire qui a été adoptée en septembre 2021 par l'Éducation nationale pour, je cite, « prendre en compte les élèves transgenres, faciliter leur accompagnement et les protéger ». Cette circulaire est néanmoins critiquée par certains jeunes trans que j'ai rencontrés, parce que quand un jeune veut se faire appeler différemment à l'école, s'il veut en gros changer d'identité de genre, il a, selon cette circulaire, besoin de l'autorisation de ses deux parents. Ce qui n'est bien sûr pas possible quand les parents s'opposent au changement. Alors dans les faits, certains enseignants contournent la circulaire, appellent l'élève comme il ou elle le souhaite, mais ils gardent son identité d'état civil sur les documents officiels ou sur les bulletins scolaires. Alors j'ai rencontré Nathan, qui est élève en terminale dans un lycée professionnel de la région parisienne. Nathan, c'est son nouveau prénom de garçon, lui qui est né assigné fille. Sa voix, vous allez l'entendre, sonne plutôt grave parce qu'il a commencé à prendre des hormones, de la testostérone depuis quelques mois. Il nous raconte le moment où il a compris qu'il se ressentait plus garçon que fille. Cette sensation très particulière, comme un bruit qui s'arrête.
Il y a un ordinateur qui fait beaucoup de bruit. Et en fait, quand on l'éteint d'un coup, on se dit « Ah, ça fait du bien quand ça arrête de faire du bruit ». Mais en fait, on ne se rendait pas compte que c'était dérangeant. Et là, c'est pareil. En fait, depuis que je suis tout petit, on parle au féminin. Et en fait, c'est que quand on a arrêté que je me suis rendu compte que ça me posait vraiment problème, que ça me gênait. Comme si on me forçait à être quelqu'un que j'étais pas. Et en fait, juste vraiment, quand ça s'arrête, ça fait du bien, quoi. Une fois, je me souviens, on était à la danse, parce qu'on faisait de la danse. Et là, en voyant les mecs danser, en fait, c'est ça, j'ai compris. C'est pas que j'aimerais être un garçon, c'est que je suis un garçon, mais je sais pas comment c'est possible, mais je pense que je suis pas une fille. Et j'avais 12 ans à ce moment-là, et j'avais jamais entendu parler de la transidentité. Après, je crois que j'ai commencé à me renseigner un peu sur comment, enfin, si c'était possible de ne pas être une fille en ayant un corps féminin. Je suis tombée sur le compte Instagram d'une personne qui en parlait, qui faisait énormément de publications là-dessus. Je me suis renseignée, j'ai à peu près tout lu. Une fois, j'avais vu une image d'un mec trans qui avait genre de la barbe et tout, et qui avait fait une opération pour plus avoir de poitrine. Et je me suis dit, en voyant ça, mais c'est trop bien, pourquoi je peux pas faire ça? Et je me suis dit, bah, faudrait que j'en parle avec mes parents, mais je sais pas comment aborder le sujet, je sais pas s'ils connaissent, je sais pas si c'est quelque chose qui est connu, si ça arrive vraiment beaucoup. Du coup, j'ai commencé à me renseigner encore plus. Après, j'ai rejoint des groupes sur Instagram de personnes qui en parlaient, d'être trans ou d'être non-binaire, peu importe, qui parlaient beaucoup d'identité de genre, en fait. Et je me suis fait des amis là-bas et je leur ai demandé comment ils pensaient que c'était bien que je fasse mon coming out, à qui je devais le faire en premier. Donc, ils m'ont conseillé de le faire d'abord à mes amis proches.
Donc là, tu discutais en ligne avec voilà, des inconnus.
C'est ça. Et du coup, j'ai décidé de le dire à mes deux amis du collège. Ensuite, j'en ai parlé à ma sœur, qui était en train de parler avec un ami à elle qui est trans. Et j'ai fait, bah, tu vois, je pense que je suis comme lui, je pense que je suis trans aussi. Et elle m'a répondu, ok. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit, mais du coup, est-ce que je dois t'appeler par un autre prénom et tout? Je fais, bah, évite, tant que j'en ai pas parlé à papa et maman, mais quand je leur en aurais parlé, ouais, je veux bien.
Et alors, quel âge tu avais quand tu as fait ce premier coming out à tes amis et à ta sœur?
J'avais presque 14 ans.
Et alors ensuite, tes parents?
J'en ai parlé d'abord à ma mère. Je savais pas comment lui dire. Et mes amis sur le groupe Instagram m'avaient conseillé d'écrire une lettre et de partir faire autre chose pendant que ma mère la lit. J'ai écrit toute une lettre. Je me souviens que je lui avais dit « Je suis pas ta fille, en fait, je suis ton fils ». J'ai dit aussi que j'avais peur qu'elle m'aime moins. Et je l'ai donné à ma mère et je lui ai dit « Bon, je pars dormir chez mon amie ce soir et t'attends que j'ai fermé la porte pour la lire, d'accord ? Et tu attends une demi-heure avant de réagir, comme ça tu peux réfléchir à ce qu'il y a écrit. » Et en fait, pendant une demi-heure, j'étais chez ma pote, j'étais là « Putain, qu'est-ce qu'elle va me répondre ? Qu'est-ce qu'elle va me répondre ? J'ai peur, je stresse. » Et là, d'un coup, je reçois... peu importe le prénom que je dois utiliser, je t'aime, avec un emoji cœur. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Après, j'en ai parlé à mon père. Il avait peur que je prenne une décision trop rapide et que après ça me pose problème dans ma vie. Que par exemple, je disais, ouais, je m'appelle Nathan. Et puis, plusieurs mois après, je disais, bah, en fait, je me suis trompée, je suis bien une fille. Et du coup, bah, j'ai essayé de le rassurer comme je pouvais. Mais maintenant, ça va, c'était il y a longtemps, maintenant, il a compris que je suis bien un garçon. C'est vrai que moi aussi j'ai peur de tout ça en fait, mais que ça faisait tellement longtemps que je me renseignais que bah, je savais que c'était ça en fait. Le fait que bah, je me sentais pas bien quand on me parlait au féminin. Avant de faire mon coming out, plusieurs mois avant, je m'étais coupé les cheveux et j'avais tenu la porte à quelqu'un de mon immeuble et la personne m'a dit « Merci jeune homme » et c'était la première fois que mon genre est au masculin. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis sentie libre, je sais pas comment dire ça, mais comme si on m'autorisait à être moi-même. Je sais que je suis bien un garçon maintenant.
Comment ça s'est passé pour toi au collège ?
Alors, au collège, j'ai voulu faire mon coming out dès la rentrée. Mes parents ont parlé avec moi, avec les adultes du collège. Après, j'en ai parlé dans ma classe. Et il y a eu des gens qui étaient là, oh d'accord, bah ok. Et il y en a plein qui ont trouvé ça amusant de se moquer de moi, de me harceler, tout ça, tout ça. C'était partagé en deux, ceux qui me soutenaient et ceux qui me harcelaient. Ils faisaient exprès de m'appeler par mon dead name.
Donc ton nom de fille d'avant.
C'est ça. Ils disaient, non mais t'as des seins, donc t'es une fille. Des trucs comme ça. Ils posaient les mêmes questions en boucle, comme, est-ce que tu vas te faire faire un zizi du coup ? C'était bah, quasiment tout le temps, en fait, à chaque fois qu'il m'adressait la parole, donc assez souvent, vu qu'on était dans les mêmes classes. Une fois, il y avait un groupe de 4 personnes, je crois, ils avaient pris mon chapeau et ils se le lançaient entre eux pendant que j'étais au milieu en train d'essayer d'attraper le chapeau. Et en fait, ils ont cassé mon chapeau. Et ça arrivait souvent qu'ils fassent ce genre de choses, en fait. Ça a duré toute l'année de 3e. Il y avait aussi des profs qui me soutenaient et des profs, principalement le prof de maths, qui me harcelaient. Il faisait plein de réflexions déplacées comme « je comprends pas pourquoi tu veux qu'on t'appelle par un prénom autre que celui que tes parents ont choisi, c'est irrespectueux pour tes parents ». Et moi, du coup, il m'appelait madame, avec mon nom de famille après, ou mademoiselle, avec mon nom de famille après. Et je lui disais d'arrêter, et il le faisait pas. Après, bah, au lycée, j'ai été directement notée sous le nom de Nathan, avec sexe masculin. Tous les autres m'ont connue comme ça, directement en me connaissant sous le nom de Nathan. Ils savaient pas que j'étais trans, même si la plupart s'en doutaient. Et maintenant qu'il y a presque plus de harcèlement, ça va, je me sens de plus en plus moi-même, en fait. Je me sens mieux. Il y a toujours du doute, la peur qu'on se trompe, que ça ait des conséquences sur l'avenir. Je doute toujours de mes décisions et j'ai toujours peur de faire des bêtises, quoi. Mais je sais quand même que bah, je suis bien trans, que
c'est pas... C'est pas juste une passade d'adolescent.
Voilà, on me dit souvent « Ah, mais c'est l'adolescence bah, ». Si tu le dis, mais en attendant, ça n'en change pas que je me sens comme ça et que je serai sûrement un adolescent toute ma vie dans ce cas.
Alors, je m'appelle Isabelle et je suis l'heureuse maman de Nathan. Je n'ai rien vu venir, absolument rien. Sur le moment, je suis tombée des nues quand j'ai ouvert sa lettre dans laquelle il me disait « Ben voilà, ça va peut-être te surprendre, mais je suis ton fils ». Mon premier réflexe était de me dire « Mais quelle vie amoureuse il va avoir ?» Mais je me dis que pour tomber amoureux d'un homme qui a un corps de femme, c'est pas évident. Ça a été une grande peur pour moi. Je voulais que mon fils ait une vie amoureuse normale, qu'il puisse choisir avec qui il irait. Et je me suis vraiment inquiétée à ce sujet-là. Pour le reste, non. J'ai pas eu le moindre doute sur ce qu'il disait. Je me suis d'ailleurs battue beaucoup avec son père là-dessus, qui disait qu'il s'agissait d'une crise d'adolescence. Et non, non, c'était tellement clair. En fait, j'ai eu une discussion avec Nathan qui m'a expliqué ce qu'il voulait comme parcours, jusqu'où il voulait aller. Et cette discussion était d'une telle maturité de sa part que je me suis pas du tout posé la question. Je me suis dit, bon, ok, il sait où il va. Il sait qui il est, il sait où il va. On va y aller ensemble. C'est mon enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, c'est mon enfant. Ça change rien.
Et est-ce que pour vous, ça a été difficile de dire mon fils et plus ma fille ?
Alors au début, ça a été un joyeux bazar dans ma tête parce que je savais qu'il fallait que je change le genre. Ça a mis du temps à s'acclimater et maintenant, ça ne me pose plus tout de problème. C'est même un vrai malaise à l'idée d'entendre des gens l'appeler mademoiselle ou elle. En fait, ça a même modifié nos souvenirs d'avant. Puisque nos souvenirs de quand il était petit, on repense à lui comme étant un garçon, on a complètement oublié son dead name, son nom d'avant, voilà.
Vous aviez pourtant choisi.
Qu'on avait pourtant choisi, ça avait été d'ailleurs un sacré casse-tête, et qui lui allait bien, je trouvais, mais bon. Que je me suis fait tatouer, en plus.
Vous avez encore le tatouage, là ?
Le prénom, c'était Lou.
Ah, et donc c'est un loup qui est dessiné sur votre bras.
Sur mon épaule. Voilà. Le parcours médical, le parcours administratif est vraiment semé d'embûches. Il faut un courage énorme. Un courage énorme aussi pour supporter tous les cons. Et il y en a. Il y en a énormément. Et je l'admire pour ça.
Charlie Dupuyot, Isabelle, la mère de Nathan, ce jeune garçon trans qu'on a entendu juste avant, est aussi enseignante.
Oui, elle est prof de français dans un collège de la région parisienne. Et avec un collègue qui enseigne la biologie, elle va mener des ateliers de sensibilisation auprès d'élèves de 4e sur ce sujet-là, des transidentités. Alors on va maintenant entendre Florian, qui lui est professeur d'histoire dans un autre établissement. Et comme tous les enseignants, il n'a reçu aucune formation sur le sujet.
C'est quelque chose que je vois dans mon travail depuis, je dirais, 4-5 ans. Je ne pense pas qu'il y ait plus ou moins d'élèves transgenres actuellement. C'est juste qu'avant, on ne mettait pas les mots dessus. On avait des élèves qui n'allaient pas bien. On disait que c'était un mal-être. Ça peut rendre des collègues, comment dire gentiment, pas très confortables. Oui, de toute façon, maintenant, ils sont tous transgenres. Alors déjà, non, ils ne sont pas tous transgenres. Moi, je pense qu'il y a un argument quand même à donner à tous ceux qui parlent d'un phénomène de mode, de « ça fait bien de se dire trans ». Moi, je suis professeur depuis 2010. De toute ma carrière, si je compte le nombre d'élèves transgenre, gender fluide, non-binaire, dont j'ai eu connaissance ou qui ont demandé à changer de... soit dont les parents ont fait la demande, soit qui m'ont fait un coming out. Donc depuis 2010, j'en ai eu 4. On est loin de la vague, on est loin de l'effet de mode. Donc j'ai des élèves non-binaires au lycée. Alors je fais attention que j'aurai mes phrases de façon neutre, qui ont fait la demande spécifique d'être genrée avec le pronom « yel ».
Yel, en fait, c'est pour remplacer « il » ou « elle ».
Et moi, je ne m'adresse pas à un élève en disant « bah alors, il va faire son exercice ». Bah alors, elle va faire son exercice. Je dis, bah, tu fais ton exercice. Donc en fait, yel, je ne suis pas confronté face à l'élève. Yel, c'est si j'en parle avec des collègues. Et là, je vais dire yel. C'est là que je peux avoir des regards de collègues pas hyper compréhensifs. Genre, oui, bah, on est entre nous, c'est bon. Bah non, on est entre nous, justement. C'est le moment où on doit collectivement s'élever, quoi. Et faire en sorte de respecter l'élève, de respecter ce qu'est l'élève. C'est des élèves qui peuvent venir vous voir à la fin du cours et vous dire bah, « je suis trans, et en fait, mon identité d'état civil ne correspond pas à ce que je suis. » J'ai des élèves transgenres, mais où on n'a pas l'accord des parents. Du coup, là, c'est compliqué, on ne sait pas dans quelle position se placer. Bah, c'est-à-dire que si on n'a pas l'accord des parents, normalement, on n'est pas censé genrer l'élève comme l'élève nous le demande, et donc à nous de gérer.
Et dans ce cas-là, comment vous parlez aux parents si un élève vient vous dire qu'il est trans?
Alors, si l'élève me dit qu'il est trans, moi, je n'en parle pas aux parents. Si l'élève me dit de ne pas en parler aux parents, je n'en parle pas aux parents, puisque je ne suis pas dans l'obligation de le faire. Moi, je dois juste prévenir si j'ai la révélation de crimes qui ont été faits par un élève ou qui ont été commis sur un élève. Donc là, je ne suis pas du tout là-dedans. La question est plutôt de savoir comment les aider. Et comment les aider, pour moi, c'est qu'ils puissent se confier à quelqu'un. En fait, la première fois que je me suis posé la question, c'était avec des coming-out plutôt d'élèves homosexuels. Et la question est de trouver quelqu'un, une personne de référence. Alors à l'époque, je disais, mais tu sais, t'as aucun problème médical. Juste, je m'entendais très bien avec l'infirmière et je savais que c'était quelqu'un de génial. Je dis, t'as aucun problème médical, t'as aucune raison dans l'infirmerie. Moi, je te parle d'infirmière en tant que personne, pas en tant qu'infirmière. C'est quelqu'un de génial. Si jamais t'as un problème, elle est là pour t'écouter quand tu veux. Parce que nous, on n'est pas toujours dispo, parce qu'on est en cours. Et bah, j'ai essayé de faire pareil un peu pour les élèves qui font des coming out trans. J'avais un collègue surveillant dans qui avait pour meilleur ami une personne trans, donc c'était une personne ressource. C'est assez compliqué parce que en même temps on n'a pas de formation, on est un peu largué et on fait comme on peut.
Par exemple, donc pour un élève non binaire, est-ce qu'on peut dire un élève, parce qu'un élève c'est un con, ouais, je
non.
Non.
Bah non, un élève c'est genré.
Ouais.
C'est pour ça que je dis l'élève.
Pour une l'élève, personne non binaire.
Pour une personne non binaire.
Ouais. Donc pour une personne non-binaire qui est dans votre classe, moi aussi il faut que je prenne des précautions avec la manière dont je parle, comment vous adressez à cette personne?
En utilisant son prénom, que cet élève a choisi. Cet élève, ça fonctionne. Pour m'adresser à des élèves non-binaires, au maximum, j'essaie de trouver des formulations neutres. J'essaie vraiment au maximum de non-genrer, et ça m'agace parce que je peux faire des erreurs aussi. Un exemple, j'arrive dans un groupe, chez bon alors les filles, vous en êtes où? Alors que j'ai un élève qui m'a fait son coming trans. Mais c'est des réflexes.
Mais ça veut dire quand même que vous faites des efforts. C'est compliqué d'y penser, d'être attentif toujours à utiliser les prénoms.
Honnêtement, je ne pense pas que ce soit des efforts ni compliqué face à ce que doivent endurer des élèves qui sont mal genrés. Je pense que pour nous, ça ne nous coûte pas grand-chose d'essayer de trouver des formulations. Oui, c'est une gymnastique et je trouve ça super intéressant. Si ce n'est pas important pour ces élèves, ils ne nous demanderaient pas. Et Yel, pour être honnête, exprès, je l'emploie devant les collègues avec qui je sens que ça va être un peu compliqué, mais exprès. Parce que qu'est-ce que ça peut vous faire si cet élève vous demande de dire « Yel », qu'est-ce que ça vous coûte à vous? Ça vous coûte rien. C'est juste que c'est quelque chose qui leur échappe, mais totalement. Quand je suis confronté à un genre de collègues qui, parfois, vont utiliser, en faisant des guillemets avec les doigts, « Oui, enfin, elle », ces collègues vont faire des guillemets avec les doigts ou toujours les genrer de la façon dont ils sont dans l'état civil. Et lorsque je leur réponds mais que c'est pas une mode et que ça a toujours existé, c'est juste que maintenant on met les mots qui conviennent dessus. Et là on me répond ouais, c'est pas pour autant qu'ils vont mieux. Bah oui, enfin, en même temps, on a le droit d'être transgenre et d'être heureux. Je pense qu'on a le droit d'être transgenre et d'être malheureux. Et c'est quand même pas compliqué. Enfin, honnêtement, la société bouge et on fait partie de la société.
Florian, professeur d'histoire, on l'entend, fait attention à la manière dont il s'exprime. Il cherche ses mots aussi dans cette interview avec vous, Charlie Dupiau. Est-ce que c'est la même chose pour certains jeunes, finalement, qui se sentent parfois mal à l'aise aussi avec ces questions?
Eh bien, justement, j'ai rencontré Carlotta, lycéenne de 17 ans, et Kevin, qui, lui, est étudiant de 27 ans. Tous les deux disent accepter les transidentités sans pour autant comprendre tout à fait.
J'ai eu deux personnes trans pendant toute ma scolarité que j'ai connues. Une personne, c'était l'année dernière, et une autre personne qui est actuellement dans ma classe. Une personne qui a transitionné en garçon.
Et qui était une fille avant.
Ouais, voilà, c'est ça. On s'y attendait pas, juste... Enfin, il nous a dit oui, j'ai changé de prénom. Du coup, la personne, elle s'est coupée les cheveux. Elle prenait des vêtements assez larges, plus masculins et tout.
Et toi, est-ce que tu t'adresses à cet élève comme à un garçon?
Oui. Je me rappelle que l'année dernière, justement, j'avais du mal parce que c'est bizarre de parler à une fille mais qui se caractérise comme un garçon parce qu'elle a des traits féminins, elle a une voix de fille. Donc forcément que c'est très perturbant. Mais après, je vais jamais l'embêter par rapport à ça. Enfin, j'ai pas non plus envie de lui manquer de respect ou quoi. Et oui, bah, ça a pas choqué les professeurs. Ça n'a pas choqué les élèves non plus. Donc c'est pour ça que c'est devenu la normalité, quoi.
Et est-ce que toi, un jour, tu t'es déjà interrogée sur ton identité de genre à toi?
Non, pas du tout. J'ai toujours su que j'étais une fille et je me suis jamais posé de questions sur ça.
Moi, quand j'avais 17 ans, personne ne se désignait comme en tant que trans. Au collège ou au lycée, durant tout mon enseignement secondaire, j'ai jamais vu ça. Rien qu'entre ma génération et celle de Carlotta, les choses elles ont énormément changé en l'espace de 10 ans. Là, c'est 10 ans, pile. J'ai 27 ans, elle en a 17.
Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui trouvent ça à la mode et justement qui veulent rentrer dans cette case. De base, il y a des vêtements à la mode, des chansons à la mode, mais là, c'est quelque chose quand même de plus sérieux, quoi. C'est pas n'importe quoi, un changement de sexe ou une sexualité. Ce qui me dérange, c'est le fait que... Enfin, je trouve que à 17 ans, on n'est pas capable de savoir si notre sexe de base, il n'est pas conforme. On ne peut pas décider de faire un si grand changement dans sa vie. Même quelqu'un qui juste décide de se renommer garçon ou fille. Voilà. Je sais que si je parle de ça, par exemple, avec des gens de ma classe que je ne connais pas forcément ou quoi, oui, je pense que je me ferais traiter de transphobe ou homophobe. Je pense que je suis quand même plus en minorité parce que la plupart des personnes qui ont mon âge, elles pensent toutes pareilles. Entre guillemets, par rapport à ça. En fait, ils prennent ça comme la normalité. En fait, ils ne se posent même pas de questions et on continue notre vie, quoi.
Je m'appelle Marie Buscato, je suis professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheure à l'IDHES, qui est un laboratoire attaché au CNRS. Je suis spécialiste des questions de genre. J'ai publié un livre qui s'appelle « Sociologie du genre » qui a été réédité en 2019 et plus récemment un livre sur la très grande taille au féminin.
Comment ces transidentités, ces nouvelles identités de genre, elles peuvent s'affirmer sans créer en face une réaction très forte qui va les défier déjà et aussi peut-être risquer de s'attaquer à d'autres causes, notamment par exemple la cause des droits des femmes?
J'aurais tendance en tant que sociologue à penser les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mouvements transidentitaires qui créent des réactions, c'est les mouvements transidentitaires qui se mettent en place. Parce qu'au quotidien, les personnes concernées vivent des rejets, vivent des exclusions. Ce n'est pas le mouvement transidentitaire ou le mouvement d'affirmation de « Black is beautiful » qui crée le racisme. Le racisme est là, le rejet de l'autre est là, l'homophobie est là. La différence, on en parle beaucoup, on dit que c'est génial, mais fondamentalement, ce que nos enquêtes montrent, c'est que ce n'est pas du tout ce à quoi aspirent la plupart des gens. La plupart des gens, les parents, les enfants, les enseignants et les enseignantes, aspirent à la normalité. On enfreint ces normes sociales, on gêne, on perturbe. Mais on peut dire la même chose, c'est pour ça que je donne l'exemple des garçons qui dansent, de la fille qui joue au foot, de la petite fille qui va diriger un jeu au centre de la cour, puisque la place des petites filles dans les cours d'école, c'est d'être sur les bords et les garçons sont au centre et prennent tout l'espace. toutes nos enquêtes nous montrent que, quel que soit le comportement assigné à l'autre sexe que vous adoptiez, vous allez choquer. Au mieux, ça sera de l'indifférence, au pire, ça sera du rejet affirmé. Ce que nous disent les enquêtes, c'est qu'on a quand même une très très grande majorité de jeunes et de moins jeunes qui se définissent de manière hétérosexuelle et qui se définissent en rapport avec leur identité de genre assignée à la naissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société dans laquelle on aurait beaucoup de gens, ou une proportion importante de personnes qui se diraient non-binaires, pansexuelles. Et en même temps, ces minorités ont la possibilité d'exister, de s'affirmer, de s'organiser et de demander à avoir une place à part égale avec les personnes qui sont dans la norme.
On les entend dans le débat.
Donc on les entend dans le débat. Elles sont du coup débattues par les personnes qui veulent que la norme perdure et qui évidemment peuvent se sentir gênées, perturbées par cette demande, qui n'est plus une demande individuelle portée par quelques personnes qui en font un choix individuel, mais portée par des groupes qui disent « bon, nous sommes des êtres à part entière, égaux, avec ces, vous, personnes dites normales ». Donc on est dans une société qui a ouvert les portes finalement à l'acceptation de la différence. Après, c'est pas parce que les portes sont ouvertes que tout le monde trouve ça confortable, intéressant et agréable.
Jeune, identité de genre et orientation sexuelle, c'était un reportage signé Charlie Dupio, réalisé par Romain Dubrac, et bien sûr que vous pouvez retrouver en podcast ou sur notre page internet 8 milliards de voisins. On se quitte avec la chanson « Rien dire » de l'artiste qu'on connaissait auparavant sous le nom de Christine and the Queens, puis Chris, et aujourd'hui, qu'il convient maintenant d'appeler Red Car, à genrer au masculin.
Si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté de moi. Mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements, j'y pense tout le temps malgré moi.
De voisins, c'est fini.